Eh bien, je voudrais tous vous féliciter d'avoir réussi à venir ici ce matin à travers le labyrinthe qu'est notre ville.
Vous ne savez
pas vraiment, c'est pas vraiment ce qui se passe. Moi, par exemple, ça m'a pris par surprise ce matin. La première fois que j'ai vu cette course sur mon chemin vers l'église, je me suis mis à paniquer. Enfin, en tout cas, je me suis dit, mince, je vais être en retard. Mes félicitations parce que vous avez réussi à venir ici ce matin. Nous étudions en ce moment l'évangile de Jean. Nous sommes encore dans le premier chapitre. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, Jean chapitre 1. Et nous parlons de témoignage de quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Et une des choses qui est intéressante à propos d'être dans une église internationale, c'est que parfois, c'est difficile de communiquer. On peut dire oui, hein, c'est vrai. Et c'est pas seulement la langue. La langue, évidemment, c'est un problème, parce que si on ne comprend pas le langage de l'autre, c'est difficile. Mais même si vous comprenez le langage de l'autre, il y a une autre pièce. Une autre partie qui est difficile, est-ce que vous êtes déjà trouvé en train de parler à quelqu'un et de dire « Oui, c'est exactement comme... » Et vous réalisez que ce que vous allez comparer, ça n'a aucun rapport dans la vie de l'autre personne. L'autre personne n'a aucune idée de quoi vous allez parler. Parce que vous ne partagez pas la même culture, elle n'a pas forcément écouté la même musique, regardé les mêmes émissions télévisées. Et donc c'est difficile parfois de communiquer avec quelqu'un. Je parle à Rebecca à propos de cela il y a un moment. Et Rebecca, c'est quelqu'un qui a vécu dans différents pays. Et quand tu lui demandes d'où elle vient, il y a une longue pause. D'où je suis vraiment. Et parfois, elle se dit, oui, elle, je pense qu'elle est d'accord que je partage ça avec vous. Et sinon, je me repenterai bien plus tard. Mais bon, voilà, elle dit qu'il y a des trous pour elle. Elle a vécu en France et aux États-Unis, et donc il y a des choses, elle se sent plus française et d'autres plus américaine. Donc il y a des trous dans sa culture. Voilà, quand elle était en France, elle a des trous culturels aux États-Unis et inversement. Et donc parfois, juste communiquer, c'est difficile, parce qu'on ne partage pas les mêmes expériences dans notre arrière-plan culturel. C'est très enrichissant d'apprendre les expériences des autres, mais ça peut être difficile en même temps. Ça peut être difficile.
Et
c'est une des joies et peines d'être dans une église internationale. Et alors que nous creusons plus profondément dans les Écritures, nous creusons dans une nouvelle culture, un endroit et une époque où aucun d'entre nous a vécu. Alors, je ne pense pas, en tout cas, le temps de Jean-Baptiste. Ça a fait plusieurs générations depuis que Jean-Baptiste était en vie. Mais si vous viviez dans aux alentours de Jérusalem à cette époque, vous saviez qui était Jean-Baptiste. Il était extrêmement populaire. En fait, connu, c'était peut-être un meilleur mot, parce que c'était une personne bizarre. Il mangeait des choses bizarres, il s'habillait de manière bizarre, mais il avait un ministère très puissant, dans le désert, près de la rivière, en appelant les gens à la repentance. Et tous les gens de Jérusalem, beaucoup, beaucoup de gens de Jérusalem et les alentours, venaient tous écouter ce qu'il avait à dire. Et beaucoup d'entre eux furent baptisés par lui dans le Jourdain. Tout le monde savait qui il était. Et alors que nous regardons son message, il disait que Jésus était l'agneau de Dieu. Nous avons parlé de ça il y a deux semaines. Il disait que lui n'était pas si grand, mais que celui qui venait après lui était si grand qu'il n'était pas même digne de délier ses sandales. Et dans Jean chapitre 1, verset 29,
He says, the next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin."
Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, "Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau." Verset 32, Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu.
Is the Son of God. We've already looked
at what
John meant
when he said, "Ce que Jean voulait dire quand il disait, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, un message très très important." Vous pouvez le retrouver en ligne, ce sermon d'il y a deux semaines. Il est en ligne sur le site internet de l'Église. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur cette phrase. Jésus est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie ? Jésus est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Premièrement, avant de vraiment savoir ce que cela veut dire, que vous pensiez au contraste que Jean-Baptiste, cette figure vraiment populaire et connue, met en avant un contraste. Lui, il baptisait des centaines et des centaines de gens dans le Jourdain, mais il leur dit, je veux que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est tellement plus grand que moi. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Il va vous baptiser avec un Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. Wow, je veux dire, même si vous ne comprenez pas exactement ce que ça veut dire, il y a quand même quelque chose d'énorme dans le contraste. Il dit, Jésus, celui qui vient, il est tellement plus grand que moi, tellement meilleur que moi. Ne vous intéressez pas à moi. Moi, je suis simplement un signe qui pointe vers lui, qui vous annonce que celui qui vient est tellement grand qu'il va vous baptiser avec le Saint-Esprit et pas avec de l'eau.
Maintenant,
si vous viviez dans cette culture, à l'époque, si vous viviez dans cette culture, qu'est-ce que vous auriez compris de ce message ? Baptisé avec le Saint-Esprit ? Baptisé dans le Saint-Esprit ? Comment est-ce que vous auriez compris ça à l'époque ? Quelles images seraient venues à votre esprit en entendant ça ? Eh bien, si nous regardons l'Ancien Testament, une recherche avec baptême dans le Saint-Esprit, ben non, on ne trouve rien. On ne trouve rien dans le l'Ancien Testament. Donc c'est un mystère.
Alors,
qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela ? Si on se replace dans le contexte de l'époque, qu'est-ce que les gens ont compris ? Si en regardant l'Ancien Testament, on voit le Saint-Esprit qui est mentionné à de nombreuses reprises. Dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu était au-dessus de l'eau et planait au-dessus de l'eau de la création. Donc ça, c'était le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit qui est mentionné à plein d'endroits dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui vient sur quelqu'un, qui est avec quelqu'un, et souvent ça rend les gens capables de faire quelque chose. Ça les rend capables de devenir rois, par exemple. Ils sont rois par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur est donné pour faire quelque chose, pour leur donner le pouvoir de faire quelque chose, Gidéon ou des prophètes dans le Saint-Testament ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux pour les aider à faire quelque chose. Donc il y a déjà ce concept du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il y a quelques références au Saint-Esprit qui remplit des gens. Mais baptême dans le Saint-Esprit, non, c'était pas du tout la même chose. Il y avait des passages dans le livre d'Ézéchiel et de Joël où la promesse était faite que le Saint-Esprit viendrait dans quelqu'un ou que Dieu verserait son esprit dans quelqu'un. Peut-être cela faisait référence au baptême, mais il y avait quelque chose de génial à propos de Jean-Baptiste qui disait que Jésus allait baptiser les gens avec le Saint-Esprit. Si vous l'aviez entendu dire ça, vous auriez eu la chair de poule. Vous auriez dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose d'énorme qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Et l'Ancien Testament ne vous donnait pas de réponse exacte. Mais il y avait des indices que le Saint-Esprit allait faire quelque chose dans la vie des gens. Vous pouvez anticiper cela. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça signifie d'être baptisé du Saint-Esprit? On trouve dans les évangiles que tous les messages des évangiles de Jésus, tous les enseignements que Jésus a donnés sur le Saint-Esprit, se passent à la fin de son ministère. C'est comme s'il préparait ses disciples à continuer sans lui, sans sa présence physique en tout cas. Dans le Gospel de Jean, les chapitres 14 à 16, il y a une grande section qui parle du Saint-Esprit. Il est mentionné brièvement dans les autres évangiles. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit. Alors, nous allons regarder Jean 14. Il n'y a pas grand-chose sur le Saint-Esprit dans les autres évangiles, mais il y a par exemple dans les livres des Actes,
Jésus dit dans Actes chapitre 1, verse 5,
John
baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. There it is, there's the phrase. It's after the resurrection.
Que Jean a baptisé avec l'eau, mais que vous serez baptisé avec le Saint-Esprit dans pas longtemps, dans quelques jours.
In Acts chapter 1, verse 8.
Acte chapitre 1, verset 8, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus leur dit, dans le verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, il viendra sur vous, et vous aurez le pouvoir d'être les témoins jusqu'aux quatre coins du monde. Dans Actes chapitre 2, il y a un passage très connu. Actes chapitre 2, dès le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils tous pas galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Parthes, Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux, ils sont bourrés. » Et c'est là que Pierre s'élève. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'adresse à la foule et leur dit, « Non, nous ne sommes pas
saouls. »
Verset 16, « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Oui, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et ce jour, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et il continue à prêcher, et encore et encore. Et vraiment, ce serment leur a... Pierre et les autres disciples, et Pierre leur a dit, « Repentez-vous et soyez bénis. » Repentez-vous de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous et vos enfants. Tout ce que Dieu a appelé à lui-même. Et tous ceux qui l'ont reçu ce jour-là, suivant l'exhortation de Pierre, ont été baptisés et ont été sauvés par Dieu. Donc c'était un moment très fort où des langues de feu sont descendues sur les gens. Les gens parlaient dans d'autres langues. Et nous avons ce sermon, le premier sermon de l'Église primitive de Pierre. Et Pierre qui a mis la barre assez haute, hein. Il a mis la barre très très haute pour un prêche. Il parle à une foule entière et 3000 personnes se convertissent. Ça, c'est le pouvoir qui vient d'en haut, le pouvoir du Saint-Esprit qui était avec eux, qui était à l'œuvre dans Pierre, qui était en action dans les paroles de Pierre. Et ça a produit des effets incroyables et des événements incroyables. Dans Actes chapitre 10,
verset 30. Peter goes to the house of Cornelius.
Pierre va dans la maison de Corneille. Et Corneille, acte, chapitre 10, verset 30.
A devout man who feared God with all his household.
Corneille, c'était une personne qui était dévouée à Dieu, qui priait Dieu avec tout son foyer.
But he was a Gentile.
Mais il était païen. Officiellement. Et il priait à Dieu, et Dieu lui parlait, et Dieu parlait à Pierre, et dit à Pierre d'aller rendre visite à Corneille. Et au verset 34, Pierre commence à prêcher à Corneille et à son personne composant son foyer. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il commence à prêcher à propos de Jésus. Il commence à lui parler de Jésus. Il lui dit au verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lorsqu'ils ont tué, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu après, avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Donc nous avons cet épisode dans la maison de Corneille qui a l'air similaire à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et vous avez des gens qui se mettent à parler dans différentes langues. Et vous avez aussi tous ces gens qui deviennent croyants, qui deviennent des disciples de Dieu. Et je voudrais que vous réalisiez que on peut lire que le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui ont entendu. Le Saint-Esprit a été déversé. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés avec le Saint-Esprit. Après cet épisode, Pierre revient à Jérusalem et fait un rapport sur son voyage, et parce que c'est un événement très étrange, alors que des non-juifs deviennent chrétiens, alors il doit faire un rapport détaillé de ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean, verset 15, « Recounting what had happened, as I began to speak, the Holy Spirit fell on them. » Alors que j'ai commencé à raconter mon histoire, le Saint-Esprit est tombé sur eux, juste comme il est venu sur nous. La même chose qui s'est passée le jour de la Pentecôte. Et je me souviens des mots du Seigneur, comment il a dit « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Si donc Dieu a donné le même don à ceux qui l'ont entendu que nous-mêmes, qui serais-je, moi, pour me mettre en travers de son chemin? Alors Pierre fait le lien entre ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, avec les disciples, et tout cela, c'était désigné par le baptême du Saint-Esprit. C'était aussi appelé le Saint-Esprit qui tombe sur les gens, qui remplit les gens, le don du Saint-Esprit. Il y avait plusieurs expressions pour décrire cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et si on passe au livre des Actes, chapitre 18, parle des Éphésiens, il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce baptême? Le baptême du Saint-Esprit.
Actes chapitre
18, verset 24. Il est écrit, un juif originaire d'Alexandrie, donc Actes 18, 24. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus était le Messie. Donc là, c'est Apollos qui arrive à Éphèse, qui enseigne sur Jésus et les gens se convertissent, trouvent une foi en Jésus et Priscille et Aquilos viennent et lui disent « Tu ne sais pas tout ». Laisse-nous t'enseigner plus pour être encore un meilleur enseignant. Et donc il va avec eux à Corinthe pour enseigner encore plus. Au verset, au chapitre 19, verset 1. Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. D'un Saint-Esprit. De quoi tu parles?
Il
leur demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Et ils répondirent, le baptême de Jean. C'est Jean qui nous baptisait dans le Jourdain. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Donc, nous avons encore un épisode où le Saint-Esprit vient sur les gens et ils se mettent à parler en langue, ils prophétisent. Mais, vous pouvez vous demander, pourquoi ça se passait, pourquoi ça se produisait comme ça? Pourquoi est-ce que Pierre leur a posé cette question? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tout le monde ne reçoit-il pas le Saint-Esprit quand il croit? Pourquoi il demande ça? Qu'est-ce qui se passe? Et Pierre a remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'expérience de ces nouveaux disciples. Et il leur a dit, comment se fait-il? Il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ils ont dit, non, on ne sait même pas ce que c'est. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Saint-Esprit? Comment est-ce qu'ils ont pu devenir disciples de Dieu sans connaître le Saint-Esprit? Moi, vraiment, je me suis battu avec cette question pendant longtemps. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, ils avaient entendu le message de la bonne nouvelle par Apollos. Apollos connaissait les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et Apollos savait vraiment beaucoup de choses sur Jésus. Mais quand est-ce que Jésus a donné ses enseignements sur le Saint-Esprit? La dernière semaine de sa vie, vraiment, c'est là qu'il a parlé à ses disciples du Saint-Esprit. Quand est-ce que Jésus a donné le commandement de baptiser en son nom? Il ne l'a pas fait tôt dans son ministère, c'était très tard dans son ministère. Très tard. C'était après sa résurrection. Et je me suis demandé, est-ce qu'il est possible que Apollos ait pu suivre Jésus, entendu les paraboles, vu les miracles, mais a juste manqué les enseignements de la dernière semaine, qu'il ait tout vu, tout expérimenté, mais qu'il n'ait pas eu les enseignements sur le Saint-Esprit? Donc il parle de Jésus aux gens, de tout ce qu'il a fait, comment il est mort, ressuscité, mais qu'il a manqué les enseignements sur le Saint-Esprit. Il n'en parle pas, en tout cas. Il n'en parle pas du tout. Si vous allez à l'atelier sur comment partager la bonne nouvelle, vous allez voir que dans le message basique de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit n'est pas au centre. La repentance, la foi, l'amour, Jésus, la relation avec Dieu, le Saint-Esprit est un peu sous-jacent. Et je pense que c'est ça qui s'est passé là à Éphèse. Pierre parle du Saint-Esprit. a prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, les a baptisés dans le nom de Jésus, parce qu'ils n'avaient pas vraiment été baptisés encore, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, il y a un autre passage, et encore une fois, on essaye de comprendre les différents points de vue, comment et pourquoi ce baptême du Saint-Esprit existe. Dans 1 Corinthiens, versets 12 et 13, on lit: je veux dire que par là que chacun de vous affirme, moi,
1 Corinthiens 12,
en ce qui concerne, donc il y a des traductions différentes là en anglais.
Most often, and it has for in one spirit. You can see three other major English translations.
Donc en français, ça donne: en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Et il y a des ambiguïtés, et c'est pour ça qu'il y a différentes traductions qui changent des nuances. Et ça change un peu le sens de ce que Paul a voulu dire dans cette lettre aux Corinthiens. Et les scolaires, et ceux qui ont étudié la Bible, dont c'est le métier, ont débattu et débattu pendant des heures pour tout cela. Pour savoir si c'est par un esprit, dans un esprit, que nous sommes baptisés. Des nuances de mots qui empêchent de savoir exactement ce qui était derrière cette expression « baptisé ». Par le Saint-Esprit, est-ce que c'est baptisé par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit baptise directement? Parce que les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans un esprit et dans le corps de Christ. Donc on a été baptisés dans le Saint-Esprit. Et l'autre traduction, l'autre interprétation, c'est nous avons été baptisés par le Saint-Esprit directement dans le corps de Christ. Donc là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui baptise les gens. Donc il y a une question, parce qu'on n'est pas sûr, à cause des traductions. Je pense que c'est la traduction entre parenthèses, mais je ne veux pas argumenter et me battre pour vous imposer cette pensée. Mais pourquoi je pense cela? Parce qu'à la fin, parce que... Donc baptisé par le Saint-Esprit, je pense que c'est cela, parce que à la fin de la journée, c'est-à-dire en fin de compte, le Saint-Esprit est absolument vital, crucial pour vivre une vie chrétienne. Le Saint-Esprit est vital pour la vie chrétienne. Et donc, en termes d'application pratique, on se pose la question: est-ce que le Saint-Esprit est une partie de votre expérience de la vie chrétienne? Regardons quelques autres passages que Paul a écrits dans Romains chapitre 8, verset
6.
Il est écrit: nous devons marcher par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Pensez à l'Esprit comme une lampe de poche. Et il fait noir autour de vous, vous marchez dans le chemin qui est éclairé par le Saint-Esprit. Vous marchez par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui vous guide et qui vous dirige sur le chemin de votre vie. Dans Romains 5, 8, il est écrit que nous devons vivre par le Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit. Et remarquez qu'il y a un S majuscule. Nous devons vivre par la personne du Saint-Esprit. Il doit être notre guide et diriger nos vies. Et Romains 8, 6 dit que nos esprits doivent être réglés sur le Saint-Esprit, sur ce que le Saint-Esprit veut. Et donc ça veut dire que nous sommes censés savoir comment ça fonctionne. Donc Galates 5, 8:18, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 5:18, il est écrit que nous devons être remplis par le Saint-Esprit. Le verset entier dit « Ne soyez pas sous avec du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et ce qu'il contraste là, c'est une personne qui est sous l'influence de l'alcool et une personne qui est sous l'influence du Saint-Esprit. Nous sommes censés être contrôlés par, dirigés par et vivre par la personne du Saint-Esprit.
Donc,
tout ce que cela peut signifier, baptême du Saint-Esprit, cela veut dire que la réalité présente de nos vies devrait être infusée, remplie de l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit. Et donc la question devient, est-ce que cela est le cas dans votre vie actuellement? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit? Est-ce que vous vous soumettez à l'Esprit-Saint? Comment fait-on cela? Alors, je vais suggérer quelques pistes. Si vous avez soif d'une expérience plus profonde avec Dieu et avec le Saint-Esprit, cela commence par la repentance et repousser le péché. Vous savez, il y a plein de gens de nos jours qui sont à la chasse de nouvelles expériences. Ils veulent avoir des sensations chaudes et agréables. Alors que quand l'Esprit Saint bouge entre nous, c'est une expérience purifiante. Jean leur dit, ne pensez pas que vous puissiez marcher dans l'esprit et être rempli de péché en même temps. Vous ne pouvez pas marcher dans la désobéissance, dans un aspect de votre vie et être rempli du Saint-Esprit. Vous devez tout abandonner à Dieu. Il n'y a pas d'expérience agréable qui pourrait compenser votre gourmandise.
C'est pas
comme ça que ça marche. Ah oui, j'ai pas mal de Saint-Esprit, alors je peux être dans le péché d'un autre côté. Non, c'est pas comme ça. Nous faisons confiance à Dieu pour le pardon de nos péchés. Nous sommes convaincus que son amour nous sauve et nous pardonne de nos péchés, mais par conséquent, nous devons consacrer tous les domaines de notre vie à son service. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, si vous voulez être sous l'influence du Saint-Esprit, ça ne se passe pas juste le dimanche matin. Ça doit arriver à 10h du matin, le mardi, et le mercredi après-midi, et dans vos familles. Vous devez être prêt à tout abandonner. Toute votre vie à lui. Tous les domaines de votre vie, lui abandonner. Nous devons céder, être obéissants à Jésus et à sa parole. Qu'est-ce que la parole nous dit à ce sujet? Nous devons être prêts à se soumettre à l'autorité de Jésus et de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a inspiré ce livre saint, la Bible. Et si vous devez être vraiment dirigé par le Saint-Esprit, une des premières manières dont l'Esprit va vous parler, c'est à travers de ce livre. Le Saint-Esprit ne contredira jamais ce qui est écrit dans la Bible. Jamais, jamais, jamais.
Ok?
Je m'en fiche. Si vous avez, vous vous sentez bien ou pas bien, enfin, je veux dire, si vous ressentez quelque chose, ce n'est pas ok de commettre l'adultère, par exemple.
Because the word says it's not okay.
C'est pas bon. Donc même si vous vous sentez rempli du Saint-Esprit, ben c'est pas ok. L'Écriture dit que ce n'est pas ok, le Saint-Esprit ne le contredira sûrement pas. Donc, il s'agit d'obéissance à Jésus et à sa parole. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Et dans Luc chapitre 11, il est dit, si vous qui êtes méchants savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, alors combien plus Dieu qui est un Dieu aimant vous donnera-t-il? Il donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent. Alors nous demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, remplis-moi par ton Esprit. Nous chantons que nous voulons la présence du Saint-Esprit parmi nous, que nous disons, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Rends-moi plus conscient de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Aide-moi à avoir cette relation avec toi par le pouvoir du Saint-Esprit. Montre-moi ce que cela veut dire de marcher dans tes voies, Seigneur. Enseigne-moi ce que ça veut dire de marcher par l'Esprit. Et il viendra sur moi. Et Dieu le fera si vous lui demandez. Nous avons... Il y a une chose qui est très controversée à propos du Saint-Esprit, ce sont les dons spirituels. Les dons surnaturels de l'Esprit, comme parler en langue, prophétiser, guérir, avoir des visions, des choses comme ça. Je crois que ces choses-là existent, elles arrivent. Ça ne doit pas être le centre de notre attention. Jésus est le centre de notre attention. Mais nous devons avoir une foi qui s'attend à ces choses. Nous prions, Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Utilise-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je dirai où que tu veux, je dirai ce que tu veux. Et en fait, le Saint-Esprit nous dit, ok, je voudrais que tu ailles prier pour cette personne et que tu la guérisses. Ah, et là, j'en panique. Attends, mais c'est bizarre. Ah non, je peux pas. Non, je veux que tu ailles prier pour cette personne, que tu la guérisses. Et donc, obéissant, nous y allons et nous prions. Et parfois, ça se produit. Dieu guérit par notre prière, il le fait. Nous devons avoir cette attente, en tout cas, cet espoir. Alors, vous voyez, nous voulons être ouverts à tous les dons de l'Esprit qui travaillent dans nos vies sans en faire le point central de notre foi ou le but ultime, sans en faire, sans en faire la jauge de notre spiritualité. Ça vous parle? Vous voyez, il ne faut pas se mesurer par ça. Quoi. Je vais prendre Paul, je vais parler de Paul un petit peu, par exemple. Paul est... Mettons que Paul soit celui à qui le Saint-Esprit a dit d'aller prier avec et pour quelqu'un, il va prier pour quelqu'un, et cette personne guérit tout d'un coup.
Alléluia!
De manière magique. Comme par magie, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait, Paul, dans ce cas-là? Il a écouté et obéi. C'est tout ce qu'il a fait. Dieu a fait la guérison. Dieu a dirigé Paul. Tout ce qu'il a fait, c'est écouter et obéir. Ok? Donc, Carlos. Par exemple, Carlos, maintenant, ici, le Saint-Esprit lui dit, hey, je veux que tu ailles manger avec un de tes collègues demain. Alors bon, il invite son collègue à midi, ils ont une conversation assez plaisante, il n'y a rien de surnaturel qui se produit. Est-ce que Paul est plus spirituel que Carlos?
Non.
Quand on compare les deux exemples, mais non, ils ont tous les deux écouté et obéi ce que le Saint-Esprit leur a dit de faire. Ce que Carlos ne sait pas, C'est que la personne à qui il mange sait que Carlos est un chrétien et qu'il pense que les chrétiens sont bizarres. Et Carlos est peut-être bizarre, mais c'est pas parce qu'il est chrétien. Non, Carlos va donc avoir, prendre un déjeuner avec ce collègue, ils ont un déjeuner, ils parlent de tout, la ville, la famille, tout ce qui se passe au boulot, ils ont une conversation très plaisante. Mais son collègue sait qu'il est chrétien. Et il se dit, en fait, les chrétiens sont pas si bizarres. Mais Carlos est en fait plutôt cool. Il s'intéressait à moi. Et ce que Carlos ne sait pas, c'est que son collègue a un autre ami qui est un chrétien qui partage le message avec lui. Le fait que Carlos a déjeuné avec lui faisait partie d'un processus que Dieu a enclenché pour que ce collègue arrive à donner sa vie à Dieu. Donc, nous vivons avec une attente forte alors que nous suivons le Saint-Esprit, que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Que des choses vont se produire. Mais juste parce que Paul a prié pour quelqu'un et qu'il a été guéri et que Carlos a juste été au déjeuner avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que que Paul est plus spirituel. Comment est-ce qu'on peut savoir qui est vraiment spirituel, qui a vraiment le don du Saint-Esprit qui coule dans leur vie? C'est pas la guérison. C'est Galatiens 5, 22. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la gentillesse, le self-control. Ce sont les fruits du Saint-Esprit qui remplissent nos vies et qui grandissent alors que nous suivons les enseignements de Dieu et du Saint-Esprit. Ce sont toutes les choses qui se voient de l'extérieur, tous les fruits du Saint-Esprit. Donc nous avons une foi qui attend de grandes choses et nous avons l'obéissance qui est essentielle. C'est essentiel pour marcher par le Saint-Esprit. Je vais encore ajouter une dernière chose à propos d'un autre sujet controversé, à propos de parler en langue et tout ça. Je crois que tous les dons spirituels qui étaient décrits dans Corinthiens continuent à exister de nos jours. Je ne pense pas qu'ils sont des marques nécessaires d'une vie spirituelle équilibrée, mais nous devons rechercher, Seigneur, rechercher à servir Dieu par toutes les manières possibles. Mais il y a plein de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue. Il y a plein de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui parlent en langue. C'est au Seigneur de décider. Mon expérience personnelle, c'est que je suis vraiment... Moi, je trouvais ça vraiment bizarre de parler en langue, alors je me suis vraiment... C'était une lutte pour moi de cette idée-là. Je n'arrivais pas à... J'étais pas en paix avec cette idée. Je pouvais prier pour quelqu'un et que Dieu le guérisse, ça me choquait pas. Mais parler en langue, je trouvais ça trop bizarre. Et je me suis vraiment battu avec cette idée et j'ai dit, bon, mais Seigneur, si c'est quelque chose que tu veux que moi je fasse, oh oui, ok. Je veux pas être bizarre, mais je veux te suivre. Mais si c'est ce que tu veux pour moi, ok, je suis d'accord. Je veux t'obéir. Je ne sais pas du tout comment faire ça, mais si c'est ce que tu veux que je fasse dans ma vie, d'accord, soit. Et ça, c'était un précurseur vraiment d'une rencontre vraiment puissante que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai finalement dit, Seigneur, que tu veuilles, tout ce que tu veux pour moi, je te laisse faire. Ok? Ok. Alors, nous allons prier un petit moment. Je voudrais vraiment vous encourager parce que, quel que soit votre arrière-plan théologique, vous dites peut-être, c'était un peu bizarre aujourd'hui, c'est pas comme ce que m'enseignent mes précédentes églises ou quoi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les églises chrétiennes évangéliques, toutes les dénominations, sont d'accord qu'il y a plus à expérimenter que ce que vous avez actuellement pu expérimenter. Vous pouvez aller bien plus profond. Vous pouvez connaître Jésus bien plus, de manière bien plus intime. Vous pouvez vivre des choses beaucoup plus puissantes dans votre vie, si c'est ce que vous cherchez. Et c'est ce que nous cherchons. Si vous voulez une relation profonde et puissante avec lui, c'est vers ça qu'il faut aller. Nous allons prendre un petit peu de temps pour prier et dire à Dieu, « Viens, remplis-moi, utilise-moi, j'abandonne tout ce que je suis à toi. Remplis-moi une nouvelle fois de ton Saint-Esprit. Touche-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. J'abandonne tout, Seigneur, je confesse mes péchés, je veux te connaître. Vraiment. Passons quelques minutes en silence devant Dieu.